Voltaire, Dictionnaire philosophique, Platon, du Timée de Platon et de quelques autres choses. Les pères de l'Église des 4 premiers siècles furent tous grecs et platoniciens. Vous ne trouverez pas un romain qui ait écrit pour le christianisme et qui ait eu la plus légère teinture de philosophie. J'observerai en passant qu'il est assez étrange que cette église de Rome, qui ne contribua en rien à ce grand établissement, en ait seule recueilli tout l'avantage. Il a été de cette révolution comme de toutes celles qui sont nées des guerres civiles, les premiers qui troublent un État travaillent toujours, sans le savoir, pour d'autres que pour eux. L'école d'Alexandrie, fondée par un nommé Marc, auquel succédèrent Athanagoras, Clément, Origène, fut le centre de la philosophie chrétienne. Platon était regardé par tous les Grecs d'Alexandrie comme le maître de la sagesse, comme l'interprète de la divinité. Si les premiers chrétiens n'avaient pas embrassé les dogmes de Platon, ils n'auraient jamais eu aucun philosophe, aucun homme d'esprit dans leur parti. Je mets à part l'inspiration et la grâce qui sont au-dessus de toute philosophie, et je ne parle que du train ordinaire des choses humaines. Ce fut, dit-on, dans le Timée de Platon, principalement, que les pères grecs s'instruisirent. Ce Timée passe pour l'ouvrage le plus sublime de toute la philosophie ancienne. C'est presque le seul que Dacier n'ait point traduit. Et je pense que la raison en est qu'il ne l'entendait point et qu'il craignit de montrer à des lecteurs clairvoyants le visage de cette divinité grecque qu'on n'adore que parce qu'elle est voilée. Platon, dans ce beau dialogue, commence par introduire un prêtre égyptien qui apprend à Solon l'ancienne histoire de la ville d'Athènes, qui était fidèlement conservée depuis 9 000 ans dans les archives de l'Égypte. Athènes, dit le prêtre, était alors la plus belle ville de la Grèce et la plus renommée dans le monde pour les arts de la guerre et de la paix. Elle résista seule aux guerriers de cette fameuse île Atlantide qui vinrent sur des vaisseaux innombrables subjuguer une grande partie de l'Europe et de l'Asie. Athènes eut la gloire d'affranchir tant de peuples vaincus et de préserver l'Égypte de la servitude qui nous menaçait. Mais après cette illustre victoire et ce service rendu au genre humain, un tremblement de terre épouvantable engloutit en 24 heures et le territoire d'Athènes et toute la grande Atlantide île. Cette île n'est aujourd'hui qu'une vaste mer que les débris de cet ancien monde de limon mêlé à ses eaux rendent innavigable. Voilà ce que ce prêtre conte à Solon. Voilà comment Platon débute pour nous expliquer ensuite la formation de l'âme, les opérations du verbe et sa trinité. Il n'est pas physiquement impossible qu'il y eût une île Atlantide et qu'elle n'existât plus depuis 9 000 ans, et qu'elle périt par tremblement de terre, comme il est arrivé à Herculanum et à tant d'autres villes. Mais notre prêtre, en ajoutant que la mer qui baigne le mont Atlas est inaccessible au vaisseau, rend l'histoire un peu suspecte. Il se peut faire après tout que depuis Solon, c'est-à-dire depuis 3 000 ans, les flots aient nettoyé le limon de l'ancienne île Atlantide et rendu la mer navigable. Mais enfin, il est toujours surprenant qu'on débute par cette île pour parler du verbe. Peut-être en faisant ses contes de prêtres ou de vieilles, Platon a-t-il voulu insinuer autre chose que les vicissitudes qui ont changé tant de fois la face du globe. Peut-être a-t-il voulu dire seulement ce que Pythagore et Timée de Locre avaient dit longtemps avant lui, et que nos yeux nous disent tous les jours que tout périt et se renouvelle dans la nature. L'histoire de Deucalion et de Pyrrha, la chute de Phaéton sont des fables, mais les inondations et les embrasements sont des vérités. Platon part de son imaginaire pour dire des choses que les meilleurs philosophes de nos jours ne désavoueraient pas. Ce qui est produit est nécessairement une cause, un auteur. Il est difficile de trouver l'auteur de ce monde. Et quand on l'a trouvé, il est dangereux de le dire au peuple. Rien n'est plus vrai encore aujourd'hui. Qu'un sage, en passant près de Notre-Dame de Lorette, s'avise de dire à un autre sage, son ami, que Notre-Dame de Lorette, avec son petit visage noir, ne gouverne pas l'univers entier. Si une bonne femme entend ces paroles, et si elle les redit à d'autres bonnes femmes de la marche d'Ancône, le sage sera lapidé comme Orphée. Voilà précisément le cas. Vous croyez être les premiers chrétiens qui ne disaient pas du bien de Cybèle et de Diane. Cela seul devait s'attacher à Platon. Les choses inintelligibles qu'il débite ensuite ne doivent pas le dégoûter de lui. Je ne me reprocherai point à Platon d'avoir dans son Timée dit que le monde est un animal, car il entend sans doute que les éléments de mouvement qui animent le monde, il n'entend pas par animal un chien ou un homme qui parle, qui chante, qui mange, qui dorme et qui entend. Et qui engendre. Il faut toujours expliquer un auteur dans le sens le plus favorable. Et ce n'est pas lorsqu'on accuse les gens d'hérésie ou quand on dénonce leurs livres qu'il est en droit d'interpréter maniement toutes les paroles et les empoisonner. Oh, ce n'est pas ainsi que j'en userais avec Platon. Il y a d'abord chez lui une espèce de trinité qui est comme l'âme de la matière. Voici ses paroles. De la substance indivisible, toujours semblable à elle-même, et de la substance divisible, il composa une troisième substance qui tient de la même et de l'autre. Ensuite viennent les nombres à la pythagoricienne qui rendent la chose encore plus inintelligible et par conséquent plus respectable. Quelle provision pour les gens qui commençaient une guerre de plumes. Amis lecteurs, un peu de patience, s'il vous plaît, et un peu d'attention. Quand Dieu formait l'âme du monde, de ces trois substances, cette âme s'élança au milieu de l'univers, aux extrémités de l'être, répandant partout ou au dehors, et se repliant sur elle-même. Elle forma ainsi, dans tous les temps, une origine divine de la sagesse éternelle. Et quelques lignes après, ainsi la nature de cet animal immense qu'on nomme le monde, est éternel. Platon, à l'exemple de ses prédécesseurs, introduit dans l'être suprême, artisan du monde, formant ce monde avant les temps. De sorte que Dieu ne pourrait être sans le monde et le monde sans Dieu, comme le soleil ne peut exister sans répandre la lumière dans l'espace, ni cette lumière voler dans l'espace sans le soleil. Je passe sous silence beaucoup d'idées à la grecque, ou plutôt à l'orientale, comme par exemple qu'il y a quatre sortes d'animaux, les dieux célestes, les oiseaux de mer, de l'air, les poissons et les animaux terrestres, dont nous avons l'honneur d'être. Je me hâte de revenir à une seconde trinité, l'être engendré, l'être qui engendre, et l'être qui ressemble à l'engendré et à l'engendreur. Cette trinité est assez formelle, et les pères ont pu y trouver leur compte. Et cette trinité est suivie d'une théorie un peu singulière des quatre éléments. La terre est fondée sur un triangle équilatère, l'eau sur un triangle rectangle, l'air sur un scalène et le feu sur un isocèle. Après quoi, il prouve démonstrativement qu'il ne peut y avoir que cinq mondes parce qu'il n'y a que cinq corps solides, réguliers, et que cependant, il n'y a qu'un monde qui est rond. J'avoue qu'il n'y a point de philosophe aux petites maisons qui ait jamais si puissamment raisonné. Vous attendez, amis lecteurs, à m'entendre parler de cette autre fausse trinité de Platon que ses commentateurs ont inventée. C'est l'être éternel, formateur éternel du monde, son verbe ou son intelligence ou son idée, et le bon qui en résulte. Eh bien, je vous assure que j'ai bien recherché dans ce timée, je n'y ai jamais trouvé. Elle y est peut-être tot idem litteris, mais elle n'y est pas tot idem verbis. Ou alors je me suis trompé. Il y a dans l'épinomiste de Platon des galimatias fort curieux. En voici un que je traduis aussi raisonnablement que je le puis pour la commodité du lecteur. Sachez qu'il y a 8 vertus dans le ciel. Je les ai observées, c'est facile à tout le monde. Le soleil en est une de ces vertus, la lune une autre, la troisième est l'assemblage des étoiles. Et les 5 planètes font avec ces 3 vertus le nombre de 8. Gardez-vous de penser que ces vertus, ou ceux qui sont dans elles et qui les animent, soit qu'ils marchent d'eux-mêmes, soit qu'ils soient portés dans des véhicules, gardez-vous, dis-je, de croire que les uns soient des dieux et que les autres ne soient pas. Que les uns soient adorables et qu'il y en ait d'autres qui ne doivent ni adorer ni invoquer. Ils sont tous frères, chacun a son partage. Nous leur devons à tous les mêmes honneurs. Ils remplissent tous l'emploi que le Verbe leur assigna quand il forma l'univers visible. Voilà déjà le Verbe trouvé. Il faut maintenant trouver les 3 personnes. Elles sont dans la seconde lettre de Platon à Denis. Ces lettres ne sont pas assurément supposées. Le style est le même que celui de ces dialogues. Dit souvent à Denis et à Dion, il dit des choses assez difficiles à comprendre, et on les croit écrites en chiffres. Mais aussi, il en dit de fort clair, et qui ne sont trouvé vrai longtemps après lui. Par exemple, voici comment il s'exprime dans la 7e lettre à Dion. « J'ai été convaincu que tous les États sont assez mal gouvernés. Il n'y a guère ni bonne institution, ni bonne administration. On y vit pour ainsi dire au jour la journée, et tout va au gré de la fortune plutôt qu'au gré de la sagesse. » Et après cette courte digression sur les affaires temporelles, revenons au spirituel, à la Trinité. Platon dit à Denis, le roi de l'univers est environné des ouvrages, tout est l'effet de sa grâce. Les plus belles choses ont en lui une cause première. Les secondes en perfection ont en lui une seconde cause. Et il est encore la troisième cause des ouvrages du troisième degré. On pourrait ne pas reconnaître dans cette lettre la Trinité telle que nous l'admettons, mais c'était beaucoup d'avoir dans un auteur grec un garant des dogmes de l'Église naissante. Toute l'Église grecque fut donc platonicienne, comme toute l'Église latine fut péripatéticienne depuis le commencement du XIIIe siècle. Ainsi, deux Grecs qu'on n'a jamais entendus ont été nos maîtres à penser, jusqu'au temps où les hommes se sont mis, au bout de 2000 ans, à penser par eux-mêmes.